Ok. Alors, je vous passe des photocopies, néanmoins. Alors, je vais résumer un peu qu'est-ce qu'on a vu. Rapprochez-vous un peu, là. Hein? Rapprochez-vous. Alors, prenez un texte pour deux, peut-être. Et je vais synthétiser ce que nous avons vu la semaine dernière. Mathias, tu peux fermer la porte, si ça ne te dérange pas. Merci. Alors, le sujet... Le sujet, c'est le suivant. Nous avons vu, donc dans le Sefer Shmuel... Ça vous dérange si on ferme plutôt au contraire, Jessie? Ça vous dérange, hein, je sens. Ah. D'accord, moi je préfère fermer, excusez-moi. Bon, j'aime l'ambiance, mais chaque chose en son temps. Non, c'est... Ouais, bon, c'est bon. Ok. Ok, alors, regardez. Le sujet, c'est le suivant. On a vu que on a dit au roi Shaoul, que la ville de Yavesh, dans la région de Gilad, était agressée par Nahash, le général des Ammonéens. Et les gens étaient paniqués par la cruauté du général des Ammonéens. Shaoul, quand il entend ça, quand il voit que les gens n'ont pas de force, ils sont paniqués, Shaoul dit le verset « Vaïchar le Shaoul meod » Il s'est mis énormément en colère. Voilà, il s'est mis énormément en colère. Et on voit que grâce à cette colère, il est devenu roi, ce que nous allons voir dans les versets. C'est grâce à cette colère qu'il est devenu roi. Bien. Alors, ce sujet, y a-t-il une colère destructrice ou y a-t-il une colère constructive, est traité extrêmement précisément dans la Gemara, dans le traité Shabbat, Dav Kouf et Amoud Bet. C'est ce que nous avons commencé à voir la semaine dernière. Ok ? Bien. Alors, on a vu qu'il y avait deux lectures dans le passage de la Gemara. Jessica, c'est bon ? Non ? Non ? On fait ça oral, hein ? Ouais ? Bien. Alors, la Gemara dit... Alors, ok, cette Gemara avait été, c'est le thème central, un des thèmes centraux du modeste livre que j'ai écrit, mais c'est un des thèmes centraux, cette Gemara. Comme on va l'expliquer un petit peu, qu'est-ce qu'il y a de tellement central dans cette problématique? Alors, on est là, je reprends oralement, hein, ne nous engloutissons pas dans le côté technique. Un travail interdit Shabbat, d'après la Torah, est un travail qui construit. Un travail qui ne construit pas, une activité qui ne construit pas, un acte qui ne construit pas, n'est pas une transgression de Shabbat. Mais, donc, on comprend bien que la Mishnah nous dit que quelqu'un qui, dans sa colère, déchire son vêtement, ne transgresse pas Shabbat. Parce qu'il a déchiré sa chemise. Sa chemise, elle est bonne pour la poubelle. Ok. Mais il y a un texte qui dit le contraire. Quelqu'un déchire sa chemise dans sa colère, a transgressé Shabbat. Ce qui signifie que quelqu'un qui déchire sa chemise dans sa colère a construit. Nonobstant le fait que sa chemise est à mettre à la poubelle, en déchirant cette chemise, la personne a construit.
Pourquoi il a trouvé cette chemise ?
Comment ? Alors justement, c'est ce qu'on cherche. Comment est-ce possible de dire qu'en déchirant quelque chose dans sa colère, il a construit en déchirant, surtout dans la colère, et c'est le texte fondamental qui dit que la personne qui déchire un objet dans sa colère ou qui casse un objet dans sa colère considère cette personne comme une personne idolâtre. Voilà. Alors nous avons vu la semaine dernière qu'il y a deux lectures à ce texte. Il y a un passage du Talmud, mais il y a deux manières de comprendre ce passage du Talmud. C'est ça qui est, extraordinaire dans l'étude du Talmud, c'est que l'imbécile, comme je dis souvent, l'imbécile, c'est-à-dire l'imbécile qui est en nous, dit, c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit ? Qu'est-ce qui est écrit ? Ça dépend comment tu lis le texte. Tu peux le lire comme ça, tu peux le lire autrement. C'est ça qui est fondamentalement vital d'apprendre à lire un texte. Alors, si vous voulez, on va reprendre. Vous voyez les lignes deviennent larges, les lignes sont fines. 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne avant que ça devienne large. Et mort des Shmatlé les Rabbi Yehuda Bemetaken. Et mort des Shmatlé les Rabbi Yehuda Bemetaken. Disons qu'on a entendu que Rabbi Yehuda condamne quand quelqu'un construit. Bemekalkel Mishmatlé. Quand la personne dégrade, est-ce que Rabbi Yehuda condamne ? Réponse de la Gemara. Amar Rabbi Avin, al nami metakenu deka avid nachatruar le yetzro. Rabbi Avin dit que la personne qui déchire un vêtement dans sa colère construit parce que il s'est défoulé, il s'est détendu. Quelqu'un qui était très très énervé, j'en ai marre. Et le dans sa colère, casse quelque chose. C'est vrai, ce qu'il a cassé, il l'a cassé. Mais c'est constructif parce que maintenant, ça l'a calmé. Bien. Là-dessus, il va y avoir deux lectures. La lecture de Maïmonide et la lecture de Rashi. Rashi dit que ce n'est pas... Je reprends. Le texte dit c'est constructif parce que ça l'a soulagé. Rashi dit non, c'est pas constructif parce qu'en vérité, ça l'aliène. C'est ça la notion d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une aliénation. Je fais quelque chose qui est irrationnel. Je rentre dans un comportement où je me détruis dans ce comportement. Ça, c'est la lecture de Rashi. C'est pas constructif parce que je me détruis. Maïmonide a une lecture plus proche du texte en disant que c'est constructif mais c'est interdit. C'est constructif mais c'est interdit. Alors c'est là-dessus que nous étions restés la semaine dernière. Comment, si c'est interdit, ça peut être constructif? Si c'est interdit, comment ça peut être constructif? Alors, pour comprendre ça, il y a un débat, je l'avais rapporté la semaine dernière, ailleurs, il y a un interdit. Regardez, on va prendre le texte du Chumash. Regardez derrière vous, il y a des Chumashim. On va prendre le texte de la Torah. Alors, c'est la paracha de Shabbat dernier, paracha de Kedoshim. C'est dans cette édition, page 195. Je reprends petit à petit. Ça, en vérité, nous avons vu la semaine dernière, mais je reprends et nous allons après avancer. Page 195, dans le livre de Vaïkra, verset, chapitre Yud-Tet, verset Yud-Zayin, c'est-à-dire chapitre Yud-Tet, chapitre 19, verset 17. Je lis en hébreu et je vais traduire. Lo tisna et aricha bilvavera. Orea tochia et amitecha velotissa alavret. Le verset dit: N'haïs pas ton frère dans ton cœur. Orea tochia et amitecha. Fais des remontrances à ton ami et tu ne porteras pas sur lui de faute. Donc, il y a un verset qui dit « Lotisna et aricha bilvavecha naï pas ton frère dans ton cœur. » Bien. La Gemara, dans le traité Ichin, traité talmudique, Ichin, d'Aftet Zayin Amud Bet, dans la page 16b, dans le traité Ichin, dit Lotisna et taricha bilvavecha, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Yachol, lo yakenu, lo isterenu, velo ikalelenu, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Ok. Est-ce à dire que je n'ai pas le droit de le frapper? Je n'ai pas le droit de l'injurier, je n'ai pas le droit de lui donner des claques. Le verset dit, bilvavecha dans ton cœur. L'interdit est si c'est dans son cœur. Garder la haine dans son cœur, ça c'est l'interdit de la Torah. Mais casser la figure à un autre, combien même serait-ce répréhensible, il ne transgresse pas l'interdit d'aller haïr son frère dans son cœur. Ok. Oui.
C'est qui le frère ?
Comment ?
C'est qui le frère ?
Le frère, je comprends la question, quelqu'un n'a pas de frère. Non, moi, je n'ai jamais eu de frère. D'où la chanson « Toi, le frère que j'ai jamais eu, ta-ta-ta-da-ta-ta ». Ouais. Alors, c'est qui le frère ? Alors, bon, c'est un grand sujet, très très grand sujet. Je ne rentre pas, c'est un sujet, ça veut dire, a priori, ça veut dire ton frère juif. Voilà. Maintenant, tu peux avoir quelqu'un qui est juif, qui ne se comporte pas bien, tu pourras voir même un commandement de la Torah de le haïr. Donc c'est un sujet énorme. Sujet. Parfois, c'est une mitzvah d'haïr des gens. J'aime ce sujet. Non, si vous voulez, ce que j'aime, c'est, a priori, quand on lit la Bible, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. C'est beau, je veux dire. C'est beau, c'est plein de bons sentiments. Mais la tradition talmudique va mettre la chose en situation. Tu n'iras pas ton frère dans ton cœur. C'est si c'est dans son cœur que c'est interdit. Mais si c'est extériorisé, tu ne transgresses pas cet interdit. Mais Maïmonide va plus loin. Alors, j'aimerais, si vous voulez, qu'on sente la chose. Quelqu'un, par exemple, haït un autre juif, un bon juif. Justement, c'est parce que c'est un bon juif qu'il haït. Voilà. Il ne peut pas le supporter. Et Shabbat, il rentre de la synagogue. Paf! Il crève un œil. Ouais. D'après Maïmonide, il l'a abîmé. N'est-ce pas? Mais il a transgressé le Shabbat. Est-ce que vous comprenez ça? Or, on a dit que transgresser le Shabbat, c'est quelque chose de constructif. Or là, c'est pas constructif. D'abord, c'est vrai, en français, on dit il lui a refait le portrait. Ouais, il a refait le portrait, donc chez nous, les voyous. Ouais, donc ça veut dire c'est mieux, t'es mieux maintenant qu'avant, avec l'œil crevé. T'es mieux. Mais bon, à part la boutade. Puisque, si vous voulez, le principe base est que quelque chose qui dégrade n'est pas une transgression de Shabbat. D'après la lecture du texte de Maïmonide, c'est une construction. C'est pas une construction, c'est une destruction. Oui.
En l'extériorisant, il a respecté, tu
ne
diras pas ton frère, donc ça l'a
construit. Dans quoi ça construit?
Parce qu'il a
fait une
sacrée.
Mais où il y a. Non!
Parce qu'il le haïssait dans son cœur, et là, il le rentre dedans, donc il l'a respecté, tu ne haïras pas en extériorisant sa colère, donc ça peut être constructif pour lui.
Oui, mais le texte dit qu'après, ça l'aliène. Si, à la limite, si tu fais tout le temps des trucs comme ça. C'est plutôt. C'est vrai, il n'aille pas dans son cœur, mais.
Si on prend ce verset en référence,
c'est vrai.
Il a fait une bonne chose quelque part.
Et en quoi? Essayons de
ne pas haïr dans son
d'expliquer.
Cœur. Non, l'autre, il sait qu'il le hait, donc il n'est plus dans son cœur. À la limite, voilà.
Ah, voilà, ça c'est bien. Il sait qu'il ne peut pas le supporter. Il a signifié quelque chose. Même si, peut-être, il va passer 2 mois en tôle à cause de ça. Mais il a changé quelque chose. Il a apporté quelque chose. Il a concrétisé quelque chose. Ça c'est la démarche de Maïmonide. Quand je dis la démarche de Maïmonide, c'est-à-dire c'est toute une démarche dans le Talmud. Et sur lequel nous étions restés la semaine dernière. Je crois que c'est quelque chose de très très important. Il y a une différence, et Maïmonide le dit d'ailleurs au début du Guide des Égales. Il y a une différence entre ce qui est bien, agréable, et ce qui est constructif. Je prends un exemple. Un gosse casse la figure à son père. C'est grave. C'est même, d'après le droit juif, dans un certain contexte, condamnable à mort. Mais, ayant objectivé sa haine, il a positionné, je dirais, un avant et un après. Il va Ça veut dire, rien ne sera comme avant. Il va devoir se positionner par rapport à ça. Même si, on pourrait dire dans l'absolu, c'est négatif, mais concrétisé, on pourrait dire, c'est un acte libre qui va changer l'histoire. Il a fait quelque chose. Quelqu'un, il ne peut pas encadrer son vieux. Regardez, je prends des exemples pas jolis exprès. Parce que c'est la vie. Et c'est ça, personnellement, si vous voulez, si je me permets de faire des cours de Talmud, c'est parce que les sages du Talmud abordent la réalité humaine indépendamment de la morale. Je crois que c'est ça qui est... Enfin, c'est un aspect très très important et très vital. Parce qu'en général, on dit, voilà, ce n'est pas bien, donc ce n'est pas bien. Mais on voit ici, les sages du Talmud arrivent à mettre une nuance. Quelque chose peut ne pas être bien et malgré tout peut être constructif. Ça, c'est quelque chose, je crois, très très important dans notre existence. Qu'est-ce que c'est bien ? Maïmonide dit... est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le début du Guide des égarés, là, parmi vous ? Oui. En général, on commence le début du Guide des égarés, de Maïmonide, et après, on lâche prise. Mais au moins, le début, on l'a lu. Maïmonide dit que Dieu avait dit à Adam, ne mange pas du fruit de l'arbre du tovara, du bon et du mauvais. Il dit, l'arbre du bon et du mauvais, c'est-à-dire, il y a une différence entre la vérité et le bon et le mauvais. La vérité, c'est pas le bon ou le mauvais. Le bon, c'est quelque chose d'agréable. Le mauvais, c'est ce qui est désagréable. Tu peux avoir une vérité indépendante de ce qui est agréable et désagréable. Tu peux avoir quelque chose de constructif qui n'est pas forcément agréable. C'est ça, par exemple, l'agressivité. L'agressivité, la violence est désagréable. Mais il peut y avoir quelque chose de très important qui s'exprime dans l'agressivité, dans la violence. Je crois que ça, c'est quelque chose de très très important. Parce que, disons, pour nous qui avons fait des études, qui avons environ le BEPS, ouais, le BEPS plus 1, BEPS plus 2, plus 2, pour nous, disons, la violence, c'est pas bien. Non, la violence n'est pas agréable, mais parfois, quelque chose peut s'exprimer par la violence. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est la démarche de Maïmonide. C'est-à-dire, quelqu'un a un moment est sorti de ses gonds, a fait quelque chose, même de répréhensible, il y a quelque chose de constructif là-dedans. Mais, quand bien même serait-ce répréhensible. Mais il l'a concrétisé. Ça, c'est ce que Maïmonide dit. Le texte dit, celui qui, Shabbat, a déchiré son vêtement dans sa colère, et par cela s'est calmé, il y a quelque chose de constructif. Rashi est contre. La démarche de Rashi est complètement contre. Lui, il dit non. Parce qu'étant donné que je rentre dans un engrenage, comment dire, le contraire de vertueux, comment dire, un cercle vicieux, où je m'éduque à finalement éduquer mes pulsions, je m'aliène. C'est finalement, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est mes pulsions qui agissent. Rashi s'oppose à Maïmonide de manière extraordinaire, et le lit du même texte, c'est le même texte, et il dit que quand on dit qu'un travail est constructif Shabbat, c'est quel est le vecteur de cette construction ? C'est moi. Est-ce que je me construis? Est-ce que je me détruis? Ça, c'est quelque chose d'innovant, que le vecteur du constructif, c'est est-ce que moi je me construis ou est-ce que moi je me détruis? Donc, d'après Rashi, on n'a pas compris comment peut-il y avoir un cas où quelqu'un détruit quelque chose dans sa colère et que ce serait constructif. Fort de ça, maintenant, on reprend le texte du Talmud. Comment peut-il y avoir un cas où quelqu'un casse quelque chose dans sa colère et construirait, donc transgresserait Shabbat? Réponse de la Gemara, 1, 2, 3, 4, 5e ligne large, l'Otsricha, le seul cas où ça sera constructif, des cas avides, les mirma emta a inche bete. Le seul cas, c'est qu'il fait, il casse quelque chose ou il déchire son vêtement pour mettre une appréhension sur les gens de sa maison, qui a des Rav Yehuda shalif matzvaita, comme un cas, une fois que Rav Yehuda a déchiré le col de son costume. Il a déchiré le col de son costume pour mettre une appréhension aux gens de sa maison. Regardons le commentaire de Rashi. Regardez ici. Shalif Matzvaita. Shalif Matzvaita déchire de son vêtement. Mina Beged Bechamato, il déchire de son habit dans sa fureur. La Rotam chez Ukoes, pour leur montrer qu'il est en colère. Veya Guru Milfana, il déchire dans sa colère pour leur montrer qu'il est en fureur et qu'ils aient peur de lui. Alors, ça, d'après Rashi, c'est quelque chose de absolument constructif. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu, je reprends, il y a deux cas de colère, et la semaine dernière, Lisa Bravanel a bien exprimé la chose, qu'il y a une colère où on se défoule, il y a une colère où on exprime, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous pouvez exprimer la différence entre une colère où on se défoule, une colère où on exprime quelque chose.
En gros, schématiquement, c'est la crise de nerfs et la marque d'autorité du père ou des enfants. Et l'autre, c'est une crise de nerfs pour se défouler, l'autre, c'est un message qui passe. C'est un peu comme, si je peux me permettre, ça fait penser à Yehuda quand il s'est mis en colère avec Joseph, ça fait avancer le processus de reconnaissance. Et par contre, quand les frères s'étaient mis en colère, ils ont détruit la ville
de Shrem.
Parce qu'ils étaient une colère destructrice.
D'accord.
Ils n'avaient pas été bénis par leur père.
D'accord.
Donc ça fait un peu la colère royale qui est.
Ce que Shaul a fait, ce que Yehuda a fait. D'accord. Alors regardez, ici, donc, vous dites c'est un message, et c'est ce que nous voyons de le roi Shaul. Vous rapportez un cas aussi royal avec Yehuda. Oui.
Quand les frères de Yosef, ils ont appris la nouvelle à leur père, comme quoi il est soi-disant décédé, est-ce qu'il a. Je ne crois pas.
Ok, donc je reprends ce que vous dites, que on pourrait dire, il y a une colère, on pourrait dire un peu, où la personne est seule, Et là, à la limite, elle se ridiculise, elle s'avilie. Ouais, c'est style, ouais, j'en ai marre, qu'est-ce que c'est tout ça ? La personne ne se construit pas, elle se laisse aller. Malgré tout, d'après ce que je vous ai rapporté, d'après Maïmonide, c'est déjà quelque chose. Hein. Ça, c'est très, très intéressant. Mais la démarche de Rashi, c'est qu'il se détruit et se laisser aller, c'est avilissant. Se laisser aller, c'est avilissant. Donc, quelqu'un, ouais, j'en ai marre, il envoie valser tout, et voilà, machin, il prend des assiettes, il envoie dans la tronche, ouais. Ça, c'est la personne s'aliène. Ok. En vérité, il n'y a pas d'interlocuteur, la personne est seule avec sa colère. Mais ce que vous dites, et c'est effectivement ce que le texte dit, la colère peut être un langage. C'est-à-dire, on peut... Excusez-moi, il y a mon appareil qui fait un bruit insupportable, je le ferme. Le cas, quelqu'un, je ne sais pas, on ne le prend pas au sérieux, on ne l'écoute pas, on ne l'écoute pas, on ne fait pas attention. Il dit, moi, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Pour vous, ce n'est pas important. Mais pour moi, c'est important! Je veux que vous l'écoutiez! Je veux que vous vous rendiez compte de ça! Vous ne vous rendez pas compte de ça! Eh ben, zut! Je rigole pas! C'est quelque chose de fondamental, vous vous rendez pas compte! Là, il s'adresse à quelqu'un. La colère est le signe d'un sérieux majeur. On a besoin de cette colère pour construire quelque chose. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a des gens qui ont été échappés des ghettos, des camps de concentration, des gens qui venaient et disaient « Il y a des usines, ils sont de mort, ils nous tuent, ils nous tuent !» Ils racontaient ce qui se passait. Tu vois, les Michiganais, ils sont fous, n'importe quoi, hein, c'est pas possible. Il paraît qu'il y a eu quelqu'un qui est allé à Londres, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, quelqu'un, je ne me souviens plus son nom, c'était quelqu'un de la Chomer Hatzair qui a fui la Pologne. Il est allé à Londres. Il a raconté qu'est-ce qui se passait à Auschwitz, etc. Les gens ne l'écoutaient pas. Il est fou. Il a dit, je vais vous montrer que c'est... Vous ne m'écoutez pas ? Je me suicide. Il s'est suicidé pour montrer qu'il ne rigolait pas. Eh bien, ça peut être une construction. Une destruction peut être une extrême construction. C'est-à-dire, parfois, ici, je m'adresse... Il y a deux sortes de colère. Il y a une colère où je suis pris par la colère. Je suis pris, je suis seul dans ma colère. Mais il y a une colère où je prends... C'est exceptionnel. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je prends... à la limite, mes pulsions comme un instrument de musique pour exprimer l'importance de ce qui est en train de se passer. Bon, si quelqu'un le fait tout le temps, il est méchiguneux.
Ouais.
Il est starbé. Mais exceptionnellement, c'est ce qu'on voit avec le roi Shaoul. Les gens, ils étaient tétanisés. Le peuple juif est attaqué, il panique. Il dit, qu'est-ce que c'est en panique ? Qu'est-ce que c'est en panique ? Allez, on se reprend. Celui qui ne part pas à la guerre, donc là, il a pris la colère et il s'est adressé à quelqu'un. Il n'est pas seul dans sa colère. La colère est un instrument, est un outil pour exprimer quelque chose. Et c'est hautement constructif. C'est pas seulement hautement constructif, je dirais même, c'est la construction même. vous donne un exemple. Vous pouvez, cet exemple, il est bon ou mauvais, je ne sais pas. Une fois, il y avait mon fils, mon plus grand des garçons, la paracha de sa bar mitzvah, c'était paracha Tachachemot. Une fois, il y avait une synagogue à côté de chez nous qui avait besoin de quelqu'un pour faire la paracha Tachachemot. Et mon fils, il avait la flemme. Il avait la flemme de la préparer. C'est la paracha de bar mitzvah, mais il avait la flemme. Je sais, ses frères les autres fils m'ont raconté qu'il l'a faite, il l'a préparée, parce qu'il a dit à ses frères, si je la fais pas, papa, il va me tuer. Non, ça veut dire, je dis pas que c'est bien, ouais, je dis pas que c'est bien, mais il y a des choses, je dis pas que c'est bien, mais il y a des choses, il y a des étapes, il y a des degrés d'importance. Des choses, c'est pas très important. Je sais pas, moi, mon gosse est allé à l'école sans se coiffer, sans se brosser les dents. Bon, ça va, c'est au bout du monde. Il y a des critères. Mais parfois, il y a des choses qui sont graves. Et on ne perçoit pas forcément la gravité de la chose. La colère montre l'essentialité de la chose, qu'on ne peut pas passer outre. Il y a des choses qu'on ne peut pas passer outre. Et ça, c'est hautement constructif. C'est pas seulement hautement constructif, je dirais même, c'est comme ça que passe une certaine éducation. Donc, si quelqu'un le fait Shabbat, il transgresse Shabbat. Et là, il y a un point sublime dans ce passage. Comme c'est hautement constructif, on n'a pas le droit de le faire Shabbat. Et on déduit d'ici, finalement, je dirais, une définition de qu'est-ce que c'est Shabbat. Shabbat, c'est pas un jour où on construit. Les gens disent souvent Shabbat, c'est le jour, comme les parents se retrouvent avec leurs enfants, c'est le jour de l'éducation. Je déduis de ce texte que Shabbat, c'est pas le jour de... C'est fondamentalement pas le jour de l'éducation. C'est le jour d'autre chose que l'éducation. L'éducation, c'est construire. Shabbat, c'est pas le jour de l'éducation. C'est le jour du plaisir. Et justement, quelqu'un qui construit Shabbat, on pourrait dire construire, c'est très important. Oui, c'est tellement important qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. Donc Shabbat, on n'a pas le droit de casser dans sa colère. Et si quelqu'un casse dans sa colère, ce qui est hautement constructif, il transgresse Shabbat. Donc Shabbat, c'est pas le jour de la construction. Est-ce que c'est clair, Sophie? Oui. Excusez-moi.
Quand on étudie Shabbat, pendant Shabbat, j'étudie. C'est très constructif, c'est même très encouragé. C'est très constructif de faire ça.
Oui, très très bien, très très bien. Alors, je parle dans l'absolu. C'est vrai que nous sommes à Paris, la semaine, on n'a pas le temps d'étudier, etc. C'est déjà bien si on étudie Shabbat. Mais je parle au niveau traditionnel. L'étude, c'est la semaine. Shabbat, c'est la révision. Shabbat, on dit, vous savez, dans les Zmirot, on dit Vashena Meshubachat. Oui. Vashena Meshubachat, comment c'est l'air? Parbourim, Slavoudagim, ouais. Vashena Meshubach. Donc, Shena Meshubach, dans les chants de Shabbat, on dit Vashena Meshubach. Alors, le sens, il y a plusieurs sens. Shena Meshubach, le sommeil, dormir Shabbat, c'est complimenter. Il y a un deuxième sens. Vashena, la révision, réviser et complimenter. C'est-à-dire que traditionnellement, au niveau traditionnel, l'étude, étudier des nouvelles choses, c'est la semaine. Shabbat, on médite sur ce qu'on a étudié. Étudier des nouvelles choses, c'est pas la dimension véritable du Shabbat. Parce que étudier des nouvelles choses, c'est un travail. Shabbat, c'est le jour de l'intuition, c'est le jour des idées, c'est le jour de la décantation de tout ce qu'on a travaillé pendant la semaine. Ça, c'est quelque chose, je dirais, de très important, que le Shabbat, c'est pas la dimension de la construction. Pour nous, instinctivement, pour nous, je dirais, humains, la construction, se construire, on pourrait dire, c'est un but. On parle beaucoup aujourd'hui de, comment on appelle, développement personnel. On se construire, apprendre, tout ça, c'est fondamental. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de la construction. C'est la dimension du Shabbat. Ou justement, ce qui est hautement constructif est exclu. Et ça, c'est quelque chose, bon, pour les personnes qui ont des enfants, c'est quelque chose, je dirais, de très très important. Pour ceux qui n'en ont pas encore, je vous le souhaite du fond du cœur, puisque nous sommes encore dans quelques minutes de Lag BaOmer. Profitons de nos bénédictions qui se concrétiseront, Bezrat Hashem, que lorsque vous aurez des enfants, le Shabbat, c'est pas le jour où on construit une relation avec les enfants. C'est la semaine qu'on la construit. Le Shabbat, c'est le moment où on passe un bon moment avec les enfants.
Oui, mais passer un bon moment avec, c'est pas construire une relation ? Et c'est pas construire quelque chose ?
Je réfléchis à ce que vous dites. Oui, c'est une dimension gratuite. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas un message à transmettre. On n'est pas là en train de transmettre quelque chose. On partage quelque chose. Voilà. Les dimensions de partage. Parce que c'est quelque chose de très très délicat. C'est pour ça que le thème de la colère est cristallisé dans le Talmud par rapport au jour du Shabbat. Parce que la semaine, on ne se voit pas. Moi, je dirais même... les scènes de ménage entre un couple, c'est quand ils ont du temps ensemble. Il y a des gens, ils vont dire, voilà, ils vont partir, ils vont partir en vacances un week-end. Si on est avec des enfants, ça c'est un thème fondamental, puisque la colère, on exprime le fond de ce qu'on a à transmettre, parfois, par une certaine violence. Je prends un exemple. Un enfant, il traverse la rue n'importe comment. Il dit, mon chéri, j'ai lu dans Françoise Dolto que il faut que tu comprennes, en vérité, tu es capable de comprendre que c'est dangereux. Le gosse, il ne sait même pas de quoi tu parles. Ouais. Lorsque il aura essayé de traverser la rue et que tu l'auras pris et que tu l'auras tabassé, il ne retraversera plus n'importe comment la rue. Ça y est, c'est fini. Il est vacciné. Là, tu as transmis quelque chose.
ça transmet quelque chose. Vous sentez le... Est-ce que vous sentez le vécu là? Est-ce que... Non, bon. Là, donc là, il y a quelque chose d'important. On pourrait dire que c'est le principal qu'on a à faire. Le Talmud ici nous dit que ça, c'est la semaine. Ça, c'est la semaine. Qu'il y a un moment, le Shabbat, où tu partages un plaisir. Ce thème du plaisir est... Comment on peut partager un plaisir? On est, nous, aujourd'hui, je pense, qu'on est extrêmement angoissés. On est dans une société extrêmement angoissante. Comment ? Stressante, angoissante. Comment on peut véritablement partager un plaisir ? Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et ce thème, je dirais, il est écrit ici, dans ce passage du Talmud. Oui, excuse-moi.
Par rapport, par exemple, de l'enfant qui traverse la rue, de n'importe quelle façon. Là, on regarde l'éducation des enfants. Qu'est-ce que c'est mieux, de privilégier la douceur, la psychologie, la patience, ou bien la manière forte et de lui faire apprendre des choses? Je pense que c'est une solution, à mon avis.
Comment?
Vous donnez l'exemple
oui,
de l'enfant.
Oui, j'entends ce que tu dis.
Vous avez donné la...
Le... Tant que tu l'as pas foutu une torgnole, il ne comprend pas.
Mais il y a des enfants qui sont tellement sensibles qu'avec des paroles douces, le message est bien passé. Ils s'appétitent.
Non, c'est vrai. C'est vrai, mais ça, c'est...
C'est comme apprendre à quelqu'un d'aimer la synagogue à la prière, un enfant. Moi, par exemple, ma sensibilité veut qu'on privilégie la manière douce plutôt que la manière forte. J'ai toujours... Voilà, ça dépend du degré de sensibilité de chacun.
C'est vrai. Il y a des enfants très sensibles.
Après, il y a... Il y a un danger après, s'il y a une cassure peut-être à un moment ou à un autre.
Non, mais le problème dans la manière douce, pour résumer, pour caricaturer, c'est que, là ce que vous dites, c'est que plus rien ne se dit. Plus rien ne se dit de moi-même,
de personnel.
Au fond de moi, du plus profond, du plus personnel soit-il.
J'attends la réponse durable.
Oui, non, non, mais ici, c'est collégial, hein, c'est
oui,
pas...
Ouais. Vous êtes le berger, on est du trou pour maintenant la réponse.
Non, mais c'est toi qui poses les règles, je ne les pose pas forcément comme tu dis. Écoute ce qu'il dit, c'est bien, le monsieur.
Est-ce que l'éducation, c'est pas si l'adaptation
là ? Non, je reprends ce que dit Lucien. Je reprends ce que dit Lucien. Que... Nous, on est dans une société, je dirais, c'est la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière ici. Une société dont la grille de lecture sont grecques. Grecques, qui passent par le christianisme, qui est un refus du pulsionnel. Un refus du pulsionnel. Un refus, je ne sais pas pourquoi. Le tout doit passer par la parole. C'est sûr que nous, juifs, la base de la vie juive, c'est l'étude de la Torah, c'est la parole. Mais, et c'est ça l'intérêt de notre étude talmudique ici, que nos maîtres sont en train d'analyser les dimensions pulsionnelles. Il y a, je dirais, un déni de notre existence. Un déni de l'existence. L'existence... J'existe dans la mesure où je suis pulsionnel.
nous sommes une société extrêmement violente. Il y a énormément de violence. Mais on n'a pas le droit de réfléchir sur cette violence. C'est-à-dire, tu réfléchis sur la violence, on dit, ah, tu es en train de la légitimer. Pas forcément, il faut analyser. En nous, il y a les gens violents, c'est pas forcément les voyous. En nous, il y a des voyous. C'est en nous, il y a dimension voyou. Il faut se rendre compte qu'il y a dimension voyou en nous. Que faire de cette dimension? Comment peut-on servir Dieu avec la dimension voyou qui est en nous? C'est pas seulement ça. Mais comment servir Dieu même aussi? Par exemple, il y a un an, il y avait l'histoire de Dominique Strauss-Kahn. Ouais, Dominique Strauss-Kahn, c'était la Halali. Ouais, c'était l'anathème absolu sur ce type. C'est un malade, c'est un détraqué, c'est un truc, c'est un machin bidule. T'en sais rien? Je sais pas. Analyse. Pas seulement analyse Strauss-Kahn, je le connais pas. Mais analysons nous-mêmes. Analysons nous-mêmes. Comment nous, qu'est-ce qui se passe en nous? Ça, c'est quelque chose de extrêmement, extrêmement fondamental. Je reprends ce que dit Lucien, ce que tu as dit, c'est que lorsqu'on parle, c'est vrai que je vous donne un exemple qui ne va pas vous plaire, et j'en suis fort aise. Ouais, j'en suis fort aise. Le Talmud dit que si tu as un enfant qui étudie la Torah, il étudie bien, tu dois le battre pour qu'il étudie plus. Alors c'est vrai, comprenons-nous bien, c'est pas qu'il doit terminer à l'hosto. Ouais. Mais si tant est que pour, je dirais, un père a quelque chose à exprimer à son fils, la centralité de l'étude de la Torah. À un moment, il faut qu'il sente que c'est central. C'est pas seulement t'es un bon gosse, ouais, t'es un bon gosse, t'as des bonnes notes, mais c'est central. Et ça, il y a là un moment, il faut que tu sortes un pulsionnel. Voilà, c'est un pulsionnel. Et je dirais, la vie vient du pulsionnel. La vie devait du pulsionnel. Il n'y a pas de vie sans pulsionnel. Et alors, c'est vrai que le pulsionnel est difficilement gérable. Le but de la vie, c'est pas forcément d'avoir une vie gérée. C'est pas forcément. Mais par contre, ici nous voyons que le Shabbat, tout ça s'exprime en d'autres termes. Et d'où la thématique absolument fondamentale, est-ce que on est assez disponible pour vivre un moment où je ne suis pas en train de transmettre quelque chose, mais je suis en train de vivre un moment de plaisir. Ça, c'est la thématique du Shabbat. Qu'est-ce que tu veux dire?
Alors, je viens apporter son témoignage et sa manière de penser. Il y a mademoiselle, vous n'avez pas écouté de loin. Elle a dit qu'il faut s'adapter à chaque personnalité. On est signeurs d'être humain, on est tous.
Je vous écoute.
C'est plus une parole d'enseignant, c'est une expérience. Je pense que l'éducation, ça passe aussi par. On a une approche différente en fonction des élèves, comme on en face de soi. Et c'est pour ça que le message passe le message passera pas pareil avec tous les élèves et il faut s'adapter. Je pense que l'éducation, ça passe aussi par savoir ce que l'autre personne en face attend. Et peut-être, comme il dit, c'est quand même plus
sensible. Absolument, absolument. C'est pas un système. Hein. C'est pas un système. Il peut y avoir des enfants.
Que les frères et sœurs dans une même fratrie peuvent avoir une sensibilité différente et une personnalité différente. Donc le parent doit s'adapter à tout un chacun.
Absolument. Absolument.
Vous donnez un exemple extrême de traverser la rue, vous mettez ses doigts dans la prise, c'est même pas, on réfléchit pas, c'est... Oui. Vous dites, on prend, on l'arrache, on... c'est un exemple presque qui met la vie en jeu, quoi. Enfin, est-ce que l'éducation en général, il n'y a pas la vie en jeu.
C'est vrai. Sauf des moments, comme on voit dans le roi Shaoul, il en était du devenir du peuple juif. Il fallait sauver le peuple juif. Il a sauvé le peuple juif en, comme on dit aujourd'hui, en pétant un câble. Voilà. Il a pété un câble, il a sauvé le peuple juif. Ça, c'est important. Ça veut dire, si quelqu'un en fait un système, c'est un malade. Voilà, c'est un malade. Et parfois, il faut savoir que ça peut être... C'est pas un tabou. Voilà, c'est pas un tabou. C'est très important. Très, très important.
Oui. C'est pas une façon de... Moi, ce que je comprends, c'est pas une façon de légitimer la violence et l'agressivité à tout les champs. Il ne s'agit pas de ça.
Il ne s'agit pas de ça.
Parce que non, parce qu'à partir de là, on tombe dans une aliénation.
Voilà, ça c'est vrai. Absolument. Mais ce n'est pas non plus un tabou. Voilà. Et c'est pas un tabou. Je reprends parfois, tu dis le fond de ce que tu as à dire, c'est le pulsionnel est un, je dirais, un instrument de musique pour ce que tu as véritablement à dire. Voilà. Oui.
Mais du coup, on a le droit de la déchirer seule, quelque chose. Chez moi, je suis seule, je suis enfermée. Je pense à un truc qui m'énerve, je la déchire le grand.
Pourquoi tu déchires ta chemise?
J'ai envie de la déchirer. Parce que selon mes menus, je fais. Mais selon Rachid, je fais rien. Parce que si j'en parle jamais.
C'est la discussion entre Maïmonide et Rachid. Qui gagne?
Maïmonide.
Comment?
Maïmonide.
Alors, nous, on a fait dans notre yeshiva un vote. Est-ce que il y a un vote entre Maïmonide et Rachid qui gagne? Comment, Maïmonide?
Les cas sont différents.
C'est
pas de
l'alignation
contre
l'esprit. Voilà, c'est plus dur. Maïmonide, c'est plus dur. Enfin, en l'occurrence, hein, c'est plus dur. Mes élèves disent, si c'était Maïmonide qui gagnait, on aurait pu la sécu. Voilà. Plus exigeant. Ok. Je pense... Ok. Donc, on va continuer. On reprend le texte de... de Shmuel. Oui.
Que Shaoul a été le sauveur du peuple juif. Il n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'Amalek depuis.
D'accord, ça sera, on verra. Mais en tout cas, en l'occurrence, il a sauvé le peuple juif. Alors, c'est bon, je vous passe les photocopies. Est-ce que vous avez des textes des dernières semaines? Yudalef, chapitre Yudalef. J'en ai pas beaucoup, moi. Vous suivez à deux, peut-être?
Oui.
Alors là, maintenant, on reprend les textes, les versets, qui sont très beaux. Hein. Voilà, nous sommes dans le chapitre Yud Aleph, verset Zayin. Donc c'est le verset sur lequel nous sommes partis. Mais... Excusez-moi, je remets l'accent là-dessus, que si tant est, ce n'est pas dans, je dirais, dans notre tradition, la tradition juive, comme les maîtres du Talmud nous l'enseignent, il n'y a pas un élément
du monde, du caractère qui est tabou. Des éléments pulsionnels. En général, on ne doit pas écouter nos pulsions. On ne doit pas être soumis à nos pulsions. Certes, ça c'est une évidence. Bien. Je n'aurais rien dit en disant ça. C'est bidon. Bien. Mais, parfois, la dimension pulsionnelle peut être la dimension constructive. Exceptionnellement, mais hautement constructive. Tellement constructive que Shabbat, on ne doit pas construire. Ça, je crois que j'insiste là-dessus, c'est quelque chose qui demande une méditation très importante. Je répète, au risque de me répéter, si quelqu'un a des enfants, il voit ça tout de suite. Et ceux qui n'en ont pas encore, je vous en souhaite, à être confrontés à ça. Que les enfants, surtout, je dirais, les adolescents, on ne comprend rien de ce qu'ils font. Dieu a fait des ados, c'est n'importe quoi. Les ados, ils cherchent à, je ne sais pas quelle mouche les pique, mais à provoquer les parents, à faire autre chose que ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, quand des parents sont avec des enfants, il y a une dimension de vouloir transmettre quelque chose, apprendre à un enfant. Bon, y a des parents qui s'en foutent, ouais, que les gosses ils grandissent comme des herbes sauvages, comme des animaux sauvages. Ça existe. Mais disons, je dirais, dans nos familles, on aimerait que nos enfants, patati, patata. Donc, il y a une dimension fondamentale dans la tradition juive de apprendre avec ses enfants, transmettre à ses enfants, etc. Mais le Shabbat, c'est pas cette dimension. Shabbat, c'est partager un plaisir. Comment c'est possible de partager un plaisir? Comment c'est possible d'être avec ses enfants sans attendre quelque chose de ses enfants? Le Talmud l'aborde dans le traité Shabbat, pas à cet endroit-là. Il dit que, et ça le Maharal le développe, c'est la dimension, c'est pour ça que j'ai écrit le livre là-dessus, c'est la dimension des trois repas de Shabbat. Qu'est-ce que ça signifie Shabbat? Shabbat signifie qu'il y a une perfection dans ce monde-ci. Il y a une perfection dans ce monde-ci. Les enfants sont l'espérance de notre vie. Si on a des enfants qui sont des voyous, si on a des enfants qui sont des pauvres types, ou des pauvres filles, des sales gosses, des dealers, des escrocs, c'est un problème, non? C'est un problème, non? Dans des gosses escrocs, dealers, qu'est-ce que vous en pensez? Un problème, quand même. C'est angoissant, un peu. Ouais, parce que nous, sur Terre, on est peu de temps. Donc, les enfants sont finalement notre devenir. C'est notre prolongation. C'est notre devenir. Si notre devenir est nul, c'est la chasra, quoi. C'est l'angoisse. Alors, les Chachamim disent, la dimension du Shabbat est la dimension que, malgré tout, il y a une perfection. Il y a une perfection. Quand on dit que Dieu s'est arrêté le septième jour, bon, on a l'impression comme ça, Dieu a créé le monde en six jours et s'est arrêté le septième jour. Ça nous paraît absolument bidon.
On n'a jamais osé dire, mais c'est nul. Non, il est fatigué, qu'est-ce qu'il y a? Dieu, il a fait la sieste le septième jour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est nul. Alors, le Maharal de Prague explique ça. Dire qu'il s'est arrêté, ça veut dire qu'il a considéré qu'il y a une perfection. Il y a une dimension de Shlemut. À travers sa création, il y a une dimension de perfection. Et quelle est la dimension de perfection dans le sujet qui nous occupe? Que nos enfants, malgré le fait qu'on a quelque chose à transmettre à nos enfants, mais il y a chez eux une dimension, chez nos enfants une dimension de perfection. On n'a pas que à transmettre à nos enfants. Que quel qu'il soit, on peut partager quelque chose avec nos enfants. Quel que soit cet enfant, il y a quelque chose de parfait chez lui. Et c'est vrai, mademoiselle, vous avez dit tout à l'heure, que par le plaisir, on crée une relation. Par le plaisir, on découvre, je dirais, qu'une relation est possible. Si on attend tout le temps quelque chose, on est tout le temps dans la fuite dans le futur, dans « ça sera mieux plus tard ». Le plaisir est possible dans la mesure où je sais que chez l'autre, il y a quelque chose de parfait chez l'autre. Il y a quelque chose d'abouti. On n'est pas que dans la construction. C'est ça ce qui fait qu'on peut partager un plaisir. Ça, c'est la dimension centrale du Shabbat. La dimension absolument centrale du Shabbat. Ok, ce étant, maintenant, on reprend notre verset. Donc, chapitre Yud Alef, verset Zayin, donc c'est le verset duquel nous étions partis. Vaikar Tsemed Bakar, Vaïna Treu, Vaishala Bechol Gvul Israël, Beyad Amalachim Lemor, Asher Enenu Yotse Achare Shaul Vachar Shmuel, Koya Selif Karo, Vaipol Pachad Hashem Alaam Vaitsu Keshechat. Il prit, donc Saül prit un attelage de taureau, et il les a découpés. Il l'a envoyé dans tout le territoire d'Israël, dans la main des émissaires, en disant: celui qui ne sort pas à la guerre, après Shaoul et après Shmuel, ainsi on fera son troupeau. Une terreur divine est tombée sur le peuple, et ils sortirent comme un seul homme. Vaïf Kodem Bebazek, Vaïou Ben Israël, Shlosh Meot Elef, Vaïch Yehuda Shloshim Alef. Alors, on va essayer de traduire mot à mot. Shaoul a compté les enfants d'Israël, mais Bazek, il y a plusieurs explications. L'explication du Talmud avec des morceaux de terre cuite. Alors, on sait qu'on n'a pas le droit de compter les enfants d'Israël. C'est un interdit de la Torah de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous savez ça? On n'a pas le droit de compter les enfants d'Israël. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit de compter les enfants d'Israël? Oui, mais d'accord, mais pourquoi? Oui, ça limite. Ça limite. Par exemple, je ne sais pas, moi, je ne sais pas combien on est. Ouais. Si je compte, on limite. En vérité. Vous n'êtes pas, comme dirait l'autre, vous n'êtes pas des numéros. Vous vivez. Il n'y a pas une limite, on n'est pas un numéro. Voilà. Donc, il y a un interdit de compter, mais comme aimait nos grands-mères, ça met le mauvais œil. Ouais, c'est quoi le mauvais œil? C'est-à-dire, ça limite les choses. Ça fait que les choses sont limitées. Voilà, c'est tant. Ouais. Il y a 5 000 manifestants selon la police. Ouais, 100 000 selon les organisateurs. Ouais, c'est combien il y en avait? Ouais, les organisateurs, ils sont contents, il y avait du monde. Ouais, la police, on a compté, ils étaient 5 000. Ouais.
Donc ça limite les choses. Alors quand il faut compter, là, on mobilise, mobilisation générale, comment on fait ? Par le biais d'un objet. Le verset dit, il les a comptés avec un morceau de terre cuite. Chacun amenait un tesson de terre cuite, et il a compté les morceaux de tesson. Bien. Vaïf Kodem et Bazek, il les a comptés avec des morceaux de terre cuite. Vaïou Bené Israël, Shlosh Menot Elef, traduction simultanée. Ils étaient combien ?
300 000.
C'est beaucoup, hein ? 300 000, c'est... C'est quelle époque, Shaoul, que les choses soient claires ? Ça fait combien de... C'est Shaoul, je vous ai déjà dit à un autre cours, c'est ce qu'on appelle l'âge du bronze. Non, ça fait un mal, quoi. C'est, ça fait près de 300 000 personnes, c'est énorme. Une armée, 300 000 personnes, c'est colossal. Mais Ish Yehuda, Shloshim Alef. Et les gens de Judée, Shloshim Alef,
30 000.
Je ne comprends pas, c'est...
Indicel.
D'accord, je ne comprends pas. Ils ne font pas partie du tout. Très intéressant, ça. Je ne comprends pas. C'est... Il y a un peuple juif, deux peuples juifs, trois peuples juifs. Je comprends pas. Ils ont compté les enfants d'Israël, il y a 300 000, et les gens de la tribu de Yehuda, 30 000. Qu'est-ce que c'est ce bastrin ? Comment ?
La lignée royale aussi. Je ne sais pas, c'était pas lui qui était avec lui,
donc
il l'avait soutenu.
C'est même le contraire. Parce que lui, Shaoul, ça sera un gros problème dans la suite. Shaoul est de la tribu de Binyamin, de Benjamin. Alors comment ça se fait là, messieurs, dames ? C'est que, si vous voulez, il n'y a pas vraiment une unité dans le peuple juif. On voit depuis toujours, il y a les enfants de Léa, les enfants de Rachel, Shaoul, et d'une tribu qui descend de Rachel. Mais les descendants de Léa sont un peu réfractaires. Il n'y a pas une unité. C'est un gros problème. Et d'ailleurs, après, il va y avoir des bagarres entre David et Shaoul. Ça veut dire, l'unité du peuple juif est très, très difficile. Très difficile. Il y a... Même là... tout le monde part à la guerre, mais la tribu de Yehuda a son autonomie. Il y a une certaine autonomie. C'est très très important. Même aujourd'hui, dans le peuple juif, on voit bien, il y a des types, des caractéristiques à l'intérieur du peuple juif qui font que c'est difficile de trouver l'unité. Et ça, c'est structurel. C'est structurel. Bien. Ok. Vayomru la Malachim. Abaïm. Donc il y avait les émissaires, des gens de la ville qui étaient agressés par les ennemis. Ils ont dit aux émissaires, Abaïm, Kotomrun les Ish Yavesh Gilad. Ainsi vous allez dire aux gens de la ville de Yavesh en Gilad, Macha Tiye Lachem Teshua Bechom Hashamesh, Vayavou Amalachim, Vayagidou Lanche Yavesh, Vaismachou. Ainsi, vous allez dire aux gens d'Yavesh de Gila, demain, il y aura Teshua. Comment ? Teshua ? C'est quoi Teshua ?
Une réponse.
Donc, Teshua, c'est comme Yeshua. Yeshua, c'est la délivrance. Demain, il y aura la délivrance. Bechom Hashemesh, quand le soleil lui, c'est-à-dire dans la chaleur du soleil, c'est-à-dire demain midi, il y aura la victoire. Demain midi, il y aura la victoire. Vayavou Amalachim, les émissaires arrivèrent, Vayagidou Lanche Yavesh, ils dirent aux gens de la ville de Yavesh, Vaismachou,
Et ils ont été extrêmement contents. Vayomru anshei Yavesh. Alors maintenant, je reprends pour les gens qui ont loupé des épisodes de Shmuel, série, comment dire, première saison. Ouais. Les personnes qui n'étaient pas là tous les épisodes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Ammonéens font le siège de la ville de Yavesh dans la région de Gilad, une ville limitrophe avec hors d'Israël, et les gens de Ammon ont dit: soit vous pactisez avec nous et vous êtes nos esclaves, on vous crève, et à chacun on vous crève l'œil droit, soit on vous massacre. Alors, fort du message du roi Shaoul, les gens d'Yavesh disent à leurs ennemis: Maran etse alechem, demain on sort vers eux, demain c'est bon, on sort vers vous. Vasitem lanou, vous ferez avec nous comme ce que vous voulez. Donc qu'est-ce qu'ils leur disent? Comment? Oui, c'est-à-dire que, en vérité, demain, c'est bon, on se rend. Demain, on se rend, vous ferez ce que vous voulez. D'accord? Mais en vérité, c'est une ruse. Vayim emachorat, vayasem shaul et ta'am shtosha roshim, ce fut le lendemain, sous-entendu le lendemain matin, Shaoul partagea le peuple en trois bataillons. Ils arrivèrent dans le camp, les commentaires disent, dans le camp des ennemis, Bashmoret Aboker, dans la troisième partie de la nuit, c'est-à-dire avant que le jour se lève. Donc ils ont fait une opération commando vers la fin de la nuit. Vayaku et Amon à Tromayom. Et ils frappèrent les Ammonéens jusqu'à ce qu'il fasse jour. Vaïanisharim, les rescapés, Vayafutsu, ils partirent, sauf qui peut, Velonisharubam, Shneim Yachad, et il n'y a pas deux rescapés qui se sont trouvés deux ensemble, c'est-à-dire, il restait rien, il y a un à droite, un à gauche, le reste, ils ont été massacrés. Vayomer Aham et Shmuel, Miaomer Shaul Imlor Alenu Tnu Anashim Unomitem. Alors, nous avons vu dans le chapitre précédent que lorsque, on a développé longuement, que lorsque Shaul a été nommé par le prophète Samuel, Shaul était extrêmement pudique. On a développé longuement la pudeur de Shaul. Donc, il était très pudique. Et il y en a qui ont dit: quoi? C'est lui qui va nous sauver? C'est lui le roi. Ha, 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 ha. Il y en a, ils se sont moqués de Shmuel. Maintenant qu'il y a eu la victoire absolument prodigieuse du peuple juif, Vayomer Aham el Shmuel, le peuple dit à Shmuel, Mia Omer Shaul Imlor Alenu. Ceux qui disent quoi? Shaul va régner sur nous. Tenu Anashim Unemitem. Qui c'est qui me traduit ça? Comment? Mesdemoiselles, là. Quoi? Oh.
Parce que nous, les gens, on va les mettre à mort.
Oui, alors c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que dit le verset? Non, mais d'accord. Non, Khalmol.
Nous, les gens, on va les mettre à mort.
Tu as le texte, t'as pas le texte?
Je sais pas. Non, non, il
est. Mais explique. T'as traduit, d'accord, maintenant explique. traduit.
Donnez-nous les gens, passez-nous les gens et on va les mettre à mort.
Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ?
Que ceux qui ont pas suivi Shaoul, ils vont les mettre à mort, ça ?
Voilà, c'est ça. Maintenant qu'il y a eu la victoire, maintenant qu'il y a eu la victoire prodigieuse, il y a eu la victoire prodigieuse. Alors maintenant, ils disent au prophète Shmuel, ceux qui contestaient Shaoul, ceux qui ont contesté Shmuel, Shaoul, ouais, amenez-les-nous qu'on les tue maintenant. D'accord ? Quand même, c'est scandaleux, quoi. Ils ont contesté Shaoul. On a vu, il a sauvé le peuple juif. C'est scandaleux. Donnez-les-nous qu'on les tue. Vayomer Shaoul, lo yumat ish bayomaze, kayom asa Hashem teshua b'Israël. Shaoul a dit, personne ne mourra aujourd'hui, car l'Éternel a fait une victoire resplendissante sur le peuple juif. Vayomer Shmuel elam, Shmuel dit au peuple, le rouv anelra gilgal, on Hadesh Sham Amelucha. Shmuel dit au peuple, allons tous à Gilgal et nous allons renouveler la nomination royale. Les commentateurs expliquent. Et ça, c'est au niveau juridique fondamental. Que quand il y a eu plusieurs étapes, Shaoul a été nommé dans l'intimité totale roi par le prophète. On l'a vu. Ok. Il y avait entre quatre yeux, le prophète a nommé Shaoul. Bien. Et on a vu que Shaoul était resté extrêmement discret là-dessus. Il y a son tonton, il dit « Où était-il passé ?» etc. Il dit « Oui, on avait perdu les ânes. » Il lui a rien dit sur la royauté. Ok. Ensuite, à Gilgal, qu'est-ce que c'est le lieu dit Gilgal ? Alors, le lieu dit Gilgal, c'est l'endroit où les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain à l'époque de Josué. Pourquoi ça s'appelle Gilgal ? Parce qu'ils ont sorti du fond, ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Même manière qu'il y a eu la traversée de la mer Rouge. À l'époque de Josué, ils ont traversé à pied sec. Et en souvenir de ce miracle, ils ont sorti du fond du Jourdain des pierres rondes qu'ils ont posées à cet endroit comme monument en souvenir de ce miracle de la traversée à pied sec du Jourdain. Et à cet endroit-là, c'est à cet endroit où ils avaient tiré au sort de qui viendrait le roi. Donc il y a eu le tirage au sort devant tout le monde. Mais nous avons vu plus haut qu'il y avait des gens qui se sont moqués de Shaoul. Tant qu'il n'y a pas eu l'accord global du peuple juif, un roi n'est pas roi dans le peuple juif. Maintenant qu'il y a eu cette victoire extraordinaire qui a été menée par Shaoul, tout le monde a été convaincu de la royauté, qu'il avait une dimension royale de Shaoul. Alors Shmuel dit, eh bien que tout le monde on se retrouve et nous allons maintenant nommer véritablement le roi. Au niveau juridique, nous voyons quelque chose de très très important. Dans notre tradition, il n'y a pas, on pourrait dire, de démocratie. C'est une théocratie. Mais d'un autre côté, ce n'est pas non plus une théocratie. C'est théocratie avec accord du peuple. C'est spécial, ça. Et ça a des impacts juridiques très très importants, comme on verra dans la suite du livre de Shmuel. Quelqu'un, de la même manière, le Maharal de Prague dit que les lois de la Torah doivent être étudiées. On ne nous demande pas dans la Torah, si on peut s'exprimer, d'être des bénis oui-oui. Vous connaissez bénis oui-oui ? Oui. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que c'est comme ça. Ouais. La base de la vie juive, c'est certes, on doit avoir confiance dans la Torah, mais on doit étudier la Torah. Tant qu'il n'y a pas d'étude, tant qu'il n'y a pas d'approfondissement, il n'y a pas de Torah. C'est la base de la vie juive. La base de la vie juive, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah va faire, c'est quand on étudie, c'est pas qu'on remet en question, on dit, ouais, c'est des conneries, machin, laisse tomber, qui part. Ouais, non, c'est pas ça. On étudie, on décortique, mais cette dimension est nécessaire. Que la parole de Dieu, eh bien, on l'intègre dans notre existence. S'il n'y a pas des moyens d'intégrer ça dans notre existence, il n'y a pas de Torah. Dieu, il est content avec sa Torah, mais s'il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de Torah. C'est par l'étude, si vous voulez, c'est la même attitude. C'est par l'étude qu'on va faire que la Torah va s'intégrer dans notre existence et qu'on verra le bien fondé de cette Torah. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on comprendra au fil du temps, ou peut-être des choses qu'on ne comprendra jamais. Mais il y a des éléments qui nous sont donnés de pouvoir intégrer et comprendre le bien fondé de la chose. C'est une fois qu'on vit et qu'on perçoit dans notre existence le bien fondé de la chose que la Torah prend toute sa réalité et tout son poids. Et ce que nous voyons ici, on devrait dire, Dieu a nommé le roi, vous la fermez. Nous voyons ici quelque chose absolument fondamental. Et le prophète dit, nous allons renommer le roi maintenant que tout le monde se rend compte que c'est quelqu'un. Ils se sont rendus compte. Nous allons réactualiser la royauté. Ce verset est absolument fondamental et on pourrait dire que c'est une parabole de toute la vie juive. C'est pour ça que l'étude de la Torah, c'est vraiment la base de la vie juive. C'est la base. Vayomer Shmuel et la Ham. Shmuel dit au peuple, le Rou Venelr, allons à Gilgal et renouvelons la royauté. Vayelru kol ha'am a Gilgal, vayamiru sham et Shmuel lifne Hashem ba Gilgal, vayisberu sham zvachim shlamim lifne Hashem, vayismar sham Shaul vechol anshei Yisrael ad meod. Verset absolument sublime. Ils allèrent tout le peuple à Gilgal et ils firent régner Shaul devant l'Éternel. C'est un peu choquant, puisque ça fait déjà plein de fois qu'il a été nommé roi. Non, maintenant c'est le peuple qui l'intronise. Le peuple l'intronise. Ils sacrifièrent des sacrifices de shlamim. Qu'est-ce que c'est des shlamim? Des sacrifices que chacun mange. Il mange ses sacrifices. Va ismar sham shaul vechol anshei Yisrael ad meod. Et c'est le dernier verset du chapitre. Qui c'est qui me traduit ça? Vous avez mes dames, mesdemoiselles? Non, matérielos. Qui c'est qui me traduit?
Et Shaul était très heureux. Et toutes les personnes d'Israël, Admeod, encore plus, quoi.
Énormément encore. Ils se sont éclatés. Ça veut dire, regardez, c'est extraordinaire. Le roi, donc finalement, qui a été nommé par le peuple juif, il a été joyeux avec tous les enfants d'Israël énormément. Ils ont dansé, ils ont fait la teuf. Non mais le roi, il a été joyeux avec le peuple. Ça c'est extraordinaire. La dimension de joie, nous avons vu avec la plupart d'entre vous, on a étudié la Megillat Esther avant Pourim. La dimension de Simcha, c'est une dimension de sainteté. La joie, c'est une dimension de sainteté. Et justement, c'est maintenant il a construit le peuple juif. Et après la construction, il y a la dimension de partager une joie. Ça, c'est l'aboutissement. C'est pas simplement il a été nommé roi, mais ils ont partagé. Le roi a été joyeux avec le peuple. Et c'est très intéressant, quand notre cher Nicolas avait été nommé en 2007, il est allé au Phuket. Ouais. C'était un truc qui avait Il avait innové quelque chose à l'époque, mais il ne s'est pas éclaté avec le peuple. C'est très important. Il s'est éclaté avec le peuple. Il a dansé avec le peuple. Ça, c'est vraiment sublime. Il a été nommé par le prophète, par le peuple. Et bien maintenant, il est joyeux avec le peuple. Ça, c'est quelque chose de magnifique.
Donc là, ça contredit ce qu'on disait tout à l'heure, c'est passer d'une autocratie à une démocratie véritable.
Non, la démocratie, c'est le peuple qui choisit. C'est-à-dire qu'il y a une théocratie partagée par le peuple. Et c'est un grand thème dans l'œuvre du Maharal de Prague, que tant que la parole de Dieu n'est pas partagée par le peuple, n'est pas partagée, la parole de Dieu n'a pas d'impact. Il faut qu'elle soit partagée. On peut d'ailleurs... regarde, quelle heure il est là? Je n'ai aucune idée.
10h05.
Quelle heure?
10h05.
Ok. On peut peut-être conclure... Vous avez un roumage, n'est-ce pas? Pour conclure cette thématique, regardez le texte du roumage dans Parashat Kitissa. Donc c'est dans l'Exode... Page 143 de cette édition. Page 143. Va'iten el Mo'or. C'est le chapitre 31, verset 18. Page 143. Lame d'Alève, verset 18. C'est Dieu donne les tables de la loi à Moïse. Va iten el Moshe, ke haloto le daber ito be'ar Sinai, shne luchot ha'edut, luchot even ketuvin be'ezba eluki. Va iten el Moshe, il donna, donc Dieu donna à Moïse, que chaloto le daberito, traduisez-moi ça, s'il vous plaît, que chaloto le daberito.
Quand il a fini de parler avec lui.
Oui. Quand il a fini de parler avec lui, Be'ar Sinai, sur le mont Sinaï, shne luchot ha'edut, deux tables de témoignage, luchot teven, table de pierre que Ketuvim Betzba Elokim, écrite avec le doigt divin. Les mots-clés, Dieu donna à Moïse quand il a terminé de parler avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a terminé de parler avec lui? Alors, Rashi, vous n'avez pas dans cette édition le commentaire de Rashi. Rashi dit que Dieu a donné à Moïse les tables quand Dieu a terminé de parler à Moïse. Ça veut dire que quand Dieu enseignait quelque chose à Moïse, eh bien Moïse et Dieu étudiaient ensemble, ils discutaient. Le Maharal de Prague en fait un point central. Il n'y a pas de don de la Torah s'il n'y a pas discussion. Et même Dieu, il a donné à Moïse, mais il a laissé à Moïse la capacité de discuter, si on peut s'exprimer ainsi. C'est quoi la discussion? C'est la capacité d'intégrer. Parce que j'ai pas compris, oui, et voilà pourquoi j'ai pas compris. Donc tu me réponds à ma question, c'est le fait que tu réponds à ma question que je peux intégrer la chose. C'est pas, voilà... Mon papa a parlé, oui. Hugues, ouais, Dieu a parlé, non, c'est pas ça. Tu parles, Moïse dit, j'ai pas compris, tu peux répéter, machin. Et c'est une fois qu'il a terminé de parler, qu'il a donné les tables. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a dimension de Torah
que s'il y a discussion et échange. C'est ce que nous voyons ici dans ce verset. Un partage. Oui, oui.
C'est cette phrase, ça se verset, « suis juste l'autre », suis précédent qui dit « il atteste qu'en six jours l'Éternel a fait du ciel la terre, au septième jour il s'est reposé ». Ça rappelle ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que c'est comme si on disait comme si Moïse, pendant, il a fini de s'entretenir, donc comme s'il avait fini les six jours. Et comme vous avez dit tout à l'heure, quand il a fini, fait la coupa le sixième jour, enfin, il a créé en six jours, vous savez que c'est le mot perfection et que le Shabbat c'était la cerise sur le gâteau, entre guillemets. Et là, on dirait que c'est un petit peu, enfin, parallèlement, la même, parce qu'il y avait juste après le verset en six jours, il a fait le septième jour s'est reposé, là, il a fini de parler et lui donne.
C'est l'aboutissement ou pas ?
C'est celui.
C'est l'aboutissement.
Parce que vous avez dit que c'était la perfection les six jours, on aurait dit qu'ils ont fini de s'entretenir, donc il n'y avait plus rien à dire, que lui donner.
C'est ça. Et comment s'exprime cet aboutissement dans la discussion? Et tant qu'il n'y a pas cette discussion, tant qu'il n'y a pas cet échange, il n'y a pas, en vérité, de réalité de la Torah. La réalité n'est que du niveau de... La Torah n'est que du niveau de Dieu. Une Torah qui n'est que du niveau de Dieu n'est pas une Torah réelle. La réalité de la Torah, c'est lorsqu'il y a échange. Et s'il n'y a pas cet échange, il n'y a pas réalité de la Torah. Ça, c'est une dimension absolument, absolument centrale. Absolument centrale. Oui.
Donc la véritable démocratie, c'est la Torah, parce qu'elle est infiniment... Voilà, elle est infinie, on peut émettre des marques jusqu'à l'infini et discuter, et essayer d'apprendre...
Non, si tu veux, il y a une dimension, je dirais, du vox populi, de la voix populaire, qui est absolument... fondamental, mais il y a un impulse divin, si tu veux. Là, la démocratie, c'est le peuple qui décide. Là, c'est le peuple qui reçoit. Tant qu'il n'y a pas réception, participation du peuple, il n'y a pas réalité de la parole de Dieu. Mais il y a d'abord l'impulse de la parole de Dieu. C'est Dieu qui décide que c'est le roi Shaoul. Si le peuple avait décidé, ils n'auraient jamais nommé Shaoul. Oui, on ne l'invente pas, si tu veux.
On l'invente pas.
On participe à la Torah, mais on ne l'invente pas. On n'est pas à l'origine de la Torah. Mais on reçoit la Torah en y participant. Mais au départ, il y a une réception aussi. Donc, il y a... le concept de démocratie n'est pas adéquat non plus. N'est pas adéquat. Ok. Bien, merci. Alors, regardez. La semaine prochaine, on est dans le chapitre 11 de Shmuel, on va passer au chapitre 15. C'est pas que 12, 13, 14 n'est pas intéressant, mais c'est très très long. C'est très long, et on ne peut pas tout faire. Et on va voir, comme tu as rapporté tout à l'heure ton prénom,
Gad.
Oui, Gad a rapporté, c'est la faute de Shaoul dans la guerre contre les Amalécites. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine, la guerre contre la Amalécite. Voilà. Bien, au revoir. Shabbat shalom.
Shabbat.